Alors bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. À l'affiche, le joli dimanche, suivi d'un pamphlet contre les bébés dans les trains. À quoi pense Serge Joncourt ?
Je pense à toutes ces paies de wagons saccagés, ces Paris-Limoges flingués par le hurlement lâche d'un sale chiard qui se défoule. Allez savoir pourquoi.
Et puis, l'inventaire de vos lits improbables ? Un échange de lettres inattendues entre Michel Jazy et André Malraux, les classes de rhétorique, parodie le conseil Patrice Comon, et le DLA, piège de Jérôme Clément pour les experts Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Patrick Beignet et Dominique Muller.
Continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix. J'adorerais dire ça à quelqu'un.
Oui.
Mais ça me fait surtout penser à « Marie-toi, sois heureux et pense à moi souvent », qui est une phrase de Madame Récamier à Châteaubriand, je crois.
Et puis, il sera l'heure d'un joli dimanche façon Lautréamont par Jacques Jouet. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58 pour le rattrapage et vos collections direction franceculture.fr après l'émission. Vous pourrez y podcaster le numéro des Papous du jour pendant un an. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Quelle chance ils ont! Et pour ouvrir ce numéro des Papous, un joli dimanche, le deuxième façon Corneille par Dominique Muller. Elle aime bien les tragiques, Dominique, et tricoter des vers aussi. Après le dimanche, à la manière du Cid, quel joli dimanche pour aujourd'hui, Dominique.
Le dimanche des stances de Corneille sur l'air de Brassens. Dimanche aussi, mon image a quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'en adage, vous ne vaudrez guère mieux. Le calendrier impose le repos des tâcherons. C'est une bien belle chose de ne plus voir ses patrons. Cependant, j'ai quelques charmes, noceuse jeu et l'ennui. Tel passe dimanche en larmes qui le vendredi a ri. Ce proverbe dure encore, et vous qui le méprisez, sachez que rire on adore quand vos longs jours sont usés. Vendredi c'est le week-end, dimanche on revient ronchon. Moi je roule à toute blinde, vous causez de gros bouchons. Vous êtes la tradition, les gâteaux après la messe. Moi je suis la permission, le jour où le boulot cesse. Peut-être que tu te vantes, répond dimanche cependant. Je suis aimé vieux vendredi et je t'emmerde en attendant. Je suis aimé vieux vendredi et je t'emmerde en attendant.
Aujourd'hui est un jour tout à fait particulier pour les Papous. Le jour où nous fêtons nos 30 ans sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio, une fête que vous découvrirez à partir de dimanche prochain et en 3 dimanches. Mais aurions-nous le don d'ubiquité puisque nous sommes aussi réunis en studio pour fêter les mots écrits dans les livres, les mots pour le dire, les mots à défendre et l'objet livre. Qui dira le bonheur de tourner les pages ? Aucune liseuse ne pourra le remplacer, ce bonheur. Et les livres se glisseront dans nos papous du jour. Avec Serge Joncourt d'abord dans le train. Il passe son temps dans les trains, Serge, et il a frôlé le prix Renaudot. Pour son écrivain national, lisez-le, il est paru chez Flammarion. Serge Joncourt et Jacques Vallée, à vos pamphlets. Joncourt, vous êtes plutôt un bon garçon, je dirais. Enfin, il y a des choses qui vous agacent, il y a des gens qui vous agacent, comme les gens qui fument dehors et qui vous polluent le lieu public, finalement. Et puis, par ailleurs, vous prenez la défense de certains objets, comme le mug qui avait été si injustement décrié un jour par Jacques Jouet. Mais là, je vous sens en position d'ennemi par rapport à quelque chose.
Oh oui, puis je suis rallié. Alors là, vraiment, je rallierai tout le monde à ma cause. Parce que c'est gagné d'avance. Mais il faut vous dire qu'en ce moment, je prends souvent le train.
Oui.
Et donc, j'ai eu une sorte de pulsion, de besoin d'écrire ce pamphlet. contre les bébés qui voyagent.
Qui voyagent seuls.
Oui. Je pense, vous l'aurez compris, à ces pollutions sonores qu'on doit endurer dans les transports à cause de marmottes de 10 mois toujours pas sevrées. Je pense à toutes ces paies de wagons saccagés, ces Paris-Limoges flingués par le hurlement lâche d'un sale chiard qui se défoule. Allez savoir pourquoi. Hein ? Oui, pour qui aime voyager, en train en particulier, ça devient, disons-le, un vrai fléau. Et d'abord, je pose la question, pourquoi tous ces bébés voyagent ? Au nom de quoi tous ces bébés bourlinguent ? Et pour aller où ? Un bébé n'a pas à voyager. Un bébé, ça dort, ou ça regarde la télé, mais ça voyage pas.
Enfin, ça ferme sa gueule, ça démissionne.
Mais c'est ce que je leur dis. C'est ce que je leur dis à longueur de voyage, monsieur le contrôleur. Mais heureusement qu'il est là, monsieur le contrôleur. Oui. Je dois rappeler cette évidence de base à tous ces récents parents qui pullulent en ces périodes d'allocation splendide. Un bébé, c'est pas fait pour voyager. Hein ? Déjà que, disons-le, un bébé, ça paye pas sa place. Hein ? Ce qui est, convenez-en, au prix du billet, un scandale. Eh bien, il faut en plus que ça électrise les rames surbondées des périodes de pointe, aussi bien que les rames paisibles de périodes bleues,
On pense qu'on pourrait dormir, justement.
Absolument. Quelle que soit l'affluence, quelle que soit la splendeur des paysages et la longueur du trajet, il faut toujours qu'il y ait un bébé qui chiale. Non, franchement, à ce stade-là, il faut le dire, c'est plus de la nuisance, c'est du terrorisme. Oui, n'ayons pas peur des mots. Tiens, amusez-vous ne serait-ce qu'une fois à voyager sans billet. Faites l'essai. Amusez-vous comme ça à vous asseoir sur les genoux de quelqu'un et à vous mettre à voler le plus fort possible pendant des heures. Amusez-vous dans un wagon à brailler pour signifier le manque ou je sais pas quoi, hein, et faites ça de la souterraine à Clermont en gueulant à vous faire péter les cordes vocales. Mais allez-y, faites-le. Vous allez voir. Vous allez voir comment vous allez être reçu. Je vous prie de croire que non seulement déjà le contrôleur qui était là dans le coin, vous êtes là. Oui, il est toujours là. Non seulement. Alors bon, il va très vite vous tomber dessus. Mais en plus de ça, tout le wagon. Ils vont même vous saigner, vous foutre dehors. Alors que le bébé, rien. Rien, personne ne bouge, personne n'ose. Personne n'ose même faire la plus petite remarque. C'est dingue. Même moi, j'ose pas. À ce niveau-là, j'assimile ça, tout net, à la prise d'otage. Oui, quand toute une rame de sous-classés, comme moi, qui a déjà la peine à caler ses genoux entre les coudes du voisin et la tablette rabattable, quand toute une âme de naufragés à bout de force au sortir du week-end de la Toussaint, surchauffée par le prix du billet et la clim en panne, et qui doit en plus endurer les cris, les jérémiades, les pleurnicheries hystériques d'un minus à peine plus grand que sa pluche, et qui est là à perforer sa tétine, quand tout ce petit monde vit sous le joug d'un chiard tyrannique qui vous épuise le tympan, oui, j'assimile ça à de la prise d'otage. Alors, qu'on se décide une bonne fois pour toutes. Soit on interdit de voyager aux bébés en deçà de 36 mois ou 22 ans, soit on se résout à le faire voyager dans la motrice, hein, parce que du bruit, il doit déjà y en avoir pas mal là-dedans, alors un peu plus, un peu de moins. Monsieur le contrôleur doit être pour, non ?
Il est pour, tout à fait. Ah, oui. Non, mais il est du genre grincheux, lui aussi, le contrôleur.
Bon, vos billets, s'il vous plaît.
Mais alors, sans savoir, Serge Joncourt, notre écrivain national, ressuscite un grand écrivain national français qui est Henri de Monterland, qui a écrit exactement le même texte, qui s'appelle Le chialeur international. Alors lui, c'était dans les wagons de nuit. Parce que vous n'avez pas connu les wagons de nuit et les couchettes de nuit et les bébés dans les wagons de nuit. Parce que c'était autre chose, monsieur. Hein.
C'est encore pire. Mais noterez qu'on a supprimé les wagons de nuit à cause de ça.
À cause des bébés.
Sortez de votre rôle de contrôleur, Jacques Vallée. Vous l'avez très bien joué, hein, d'ailleurs. Et donnez-nous votre point de vue sur les bébés dans les trains. Parce que, bon, Serge est violemment contre. Est-ce que vous seriez pour ?
Ben, je vais peut-être le convaincre. Ah. Parce que moi, quand je m'installe dans un wagon et que j'entends le charmant gazouillis d'un bébé, je suis aux anges. Je fonds. J'en profite pour regarder la maman.
Ah ben voilà.
Souvent encore plus charmante que sa progéniture. Et très vite, la conversation s'engage. Rien de plus facile. Des questions, un garçon, une fille. Ouais. J'avoue que je ne fais pas tout de suite la différence. Quel âge a-t-il ? Ah, qu'il est bien. Ah, qu'il est fort pour son âge. Et je m'extasie. Ah, elle a les yeux de sa maman. Et son sourire. C'est alors que le bébé se met à chialer.
Voilà.
La dame le secoue un peu.
On n'a pas le droit de secouer les bébés.
Puis il le prend dans ses bras. Ouais. Connaissez-vous quelque chose de plus charmant que la mère à l'enfant? Le sujet préféré des peintres italiens du 15e, du 16e siècle, la Vierge à l'enfant. Une occasion de découvrir en détail la maman. Je zappe un peu l'enfant et m'émeut du corps de la dame. Voyez-vous, chers voyageurs, le bébé est le chemin le plus court pour séduire la maman. Ça vaut bien supporter quelques braillements. Et puis, je ne voyage pas sans une petite pharmacie personnelle, avec toutes sortes de sirops apaisants, de quoi plonger dans le sommeil le cher Rubin le plus récalcitrant. Alors, je propose une petite cuillerée pour endormir le bébé. Voilà, il dort à poing fermé. Quel plaisir alors de découvrir la reconnaissance dans les yeux attendris de la maman qui admire son ange qui lui fout enfin la paix. Et c'est ainsi que nous faisons davantage connaissance. Et j'ai connu une maman descendant à la gare qui était prête de mettre à la consigne son trésor pour faire plus grande connaissance. Alors je vous dis, dites merci au bébé.
Ah, ben voilà.
Ah oui, dis donc, c'est quoi le nom du sirop, vous me direz là.
Du Fénergan.
T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons.
Alexis HK, je tue il ou elle catalogue pour le plaisir toujours renouvelé de dresser des listes. Souvenirs, souvenirs, à oublier peut-être, juste après les avoir collectés, comme nos petits moments de lâcheté. Ou bien garder précieusement comme les tout petits sujets de se réjouir d'être debout. Debout ou couché, mais on ne choisit pas toujours son lit. Pour inventaire, aujourd'hui, le catalogue de vos lits improbables. Par Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier, Jacques Jouet et Patrice Delbourg. C'est d'ailleurs Patrice Delbourg qui l'a voulu, cet inventaire. Normal que ce soit lui qui raconte le premier. Patrice.
J'ai dormi dans la réplique du petit lit à barreaux de cuivre de Marcel Proust, au musée Carnavalet, à Paris, rue de Sévigné. Oh ! Un Paris bien stupide avec des copains, je m'étais caché à la fermeture du musée et je m'étais laissé enfermer dans l'espace reconstitué de la fameuse petite chambre de Liège. Tout ça pour voir si j'allais me coucher de bonne heure. Quelle bonne blague ! 1,55 m de longueur, 60 cm de large, insuffisant pour que je puisse m'allonger. Alors je suis resté assis une bonne partie de la nuit sur le cadre du pieu de l'écrivain à regarder l'abat-jour de tissu vert et le paravent chinois. Tu parles d'une escapade.
Bah, c'est vrai que vous n'avez pas tout à fait le bon format. Hein.
Pour Proust, non.
Non. Vous dites le conseil, où avez-vous dormi?
Alors moi, je n'ai jamais dormi dans un hamac. Je n'ai jamais non plus dormi dans le lit d'une rivière. Je n'ai jamais dormi sur mes deux oreilles à la fois. Je n'ai jamais dormi dans un arbre ni dans un igloo. Mais il m'est arrivé de dormir sur le fauteuil de ma dentiste, la bouche grande ouverte.
Ça, j'y crois pas, moi.
Véridique.
Ça s'appelle une anesthésie.
Elle n'était pas très contente parce que du coup, j'avais tendance à refermer un peu la bouche en dormant dans quel de mes
rêves. Elle lui mord le doigt. Jacques Jouet.
Sous la tente.
Oui.
Sur un matelas pneumatique gonflable, ouais. Percé. Ouais. Je lisais les poèmes de Boris Vian, Je voudrais pas crever. Mais il était crevé, justement, le matelas pneumatique. Et moi aussi, au réveil, j'étais crevé. Parce que toutes les heures, je me réveillais pour souffler dans le petit tube qui dépasse.
Ah oui, oh là là, quelle horreur. Jean-Bernard Pouy, vous avez eu des lits improbables?
C'est un truc idiot, mais j'avais trouvé dans un grenier un vieux tas de papier dépareillé.
m'apercevant que c'était un testament daté du siècle dernier, je l'ai ramené chez moi et disposé les nombreuses pages notariales sur un tapis. Je me suis allongé dessus, tentant de trouver le sommeil, tel que j'étais là, couché sur un testament. Je n'ai même pas rêvé que j'avais hérité. La seule chose dont j'avais hérité, c'est un furieux mal de dos.
Tout ça pour ce jeu de mots foireux. Hein. Non, faut jamais hésiter, autrement quelqu'un d'autre le fait à votre ben oui. place. Alors, Lucas Fournier.
J'ai dormi dans un lit cathédrale.
Ah, c'est comment ça?
Alors, vous connaissez tous le lit en portefeuille, c'est ouais. le pliage des couvertures qui vous empêche d'étendre vos jambes et vous contraint à un inconfortable chien de fusil. C'est une blague classique dans les collectivités de garçons, mais cela ne vaut pas le lit cathédrale auquel mes compagnons de chambrée m'ont initié. Vous êtes dans votre lit et soudain, vous vous sentez basculé. Votre lit se dresse contre le mur, vos pieds au plafond et vous la tête en bas. C'est une sorte d'histoire à dormir debout, mais dans la position de l'apôtre Pierre, crucifié la tête en bas. Alors j'ai dormi dans ce lit cathédrale et ce lit était bien sûr un vrai pieu.
Ah, vous voyez, lui non plus, il n'a pas hésité à le faire. Odile ?
C'est mon premier camp scout, j'ai une dizaine d'années. Alors nous dormons sur des paillasses, c'est-à-dire des housses de tissu cousues avec amour par nos mamans et remplies de paille apportées par le fermier chez qui nous avons planté nos tentes. « Tu verras », m'avait dit la mère d'une amie, « c'est douillet, on y creuse son trou et on y dort bien ». Je n'aurais jamais dû la croire. J'avais mal réparti la paille, il y avait des creux, des bosses, c'était affreux.
Ouais, moi j'ai pas d'expérience scout, Jacques Jouet.
Eh bien, c'était après un sérieux incendie de milieu de la nuit. Je suis dans le clic-clac des voisins, solidaires, une odeur de brûlé tenace dans les narines. J'ai terriblement envie de faire l'amour avec ma voisine de clic-clac qui a perdu toutes ses affaires dans l'incendie. Elle me dit sèchement « Non, non, merci, c'est vraiment pas le moment. » Bon, rêve de saumon fumé.
Jean-Bernard Pouille, un petit lit, un grand lit, un beau lit.
Un lit naturel. Oui. J'ai passé une nuit renaissance. Hein mais vraiment à l'italienne. Dans le noir profond, quand nous étions couchés dans la paille d'un champ, sans trop savoir où nous étions. Et quand le jour s'est levé, nous avons aperçu les tours de San Gimignano se profiler devant une aube rose et tranquille. Et on s'est rendu compte que nous étions dans un champ moissonné la veille, où une vingtaine de paysans s'activaient à faire des meules dès le matin avec la paille, sauf à l'endroit où nous étions. Ils n'avaient pas voulu nous déranger. Et c'était absolument comme une toile de Giorgio. C'était d'une paix extraordinaire, d'une beauté totale.
Quelle délicatesse. Il en a des jolis souvenirs, hein, Jean-Bernard Pouille.
Mais c'est des souvenirs, hélas.
Lucas Fournier.
J'ai dormi tête bêche. Alors, c'est une expression rustique du XVIe siècle qui vient du mot abéchevé, qui voulait dire à double tête. Hein. Béchevel, construit à partir de baisse, bis, de, et chevet, chef, de capoute la tête, deux têtes. Alors, mes souvenirs d'enfance où l'on me faisait dormir ainsi sont très différents. Hein. Ce n'est pas de tête à tête qu'il s'agit, mais ma pauvre tête et les pieds dans la figure. Oui. Le tête-bêche était pratiqué sur les couchettes des compartiments de chemin de fer, un exercice de haute voltige où l'on avait le choix entre Caribe, le gouffre, la dégringolade, en se poussant pour éviter les orteils dans le visage, ou Scylla, les sévices corporels infligés par cette paire de pieds se baladant au milieu de ma figure. Donc, gloire au TGV qui nous a délivré des têtes-bêches.
J'ai jamais compris en quoi c'était un gain de place, vraiment, de dormir tête-bêche plutôt que côte à côte.
Ah, mais moi non plus.
Odile, quelque chose de plus joyeux, un lit rayonnant.
Oui, quelque chose comme ça, parce que petite fille, il m'est arrivé de dormir dans le lit de ma grand-mère. Alors, c'est un lit qui me faisait très envie, un lit haut à l'ancienne, avec un cadre en bois massif, des oreillers à dentelle et à frou-frou, des draps blancs ajourés, un gros édredon de plumes qui semblait plus moelleux qu'un chamallow. Alors, sans doute étais-je malade pour qu'elle m'autorise à m'y coucher, mais là, horreur. Le matelas était mou, terriblement mou, et j'ai eu l'impression de me faire happer, dévorer par le lit, comme dans des sables mouvants. Peut-être que ma grand-mère y trouvait, elle, un certain réconfort.
C'est probable, on l'espère pour elle en tout cas, ou alors il n'y avait rien d'autre. Jacques Jouet.
J'ai dormi sur un tapis de feuilles dans la forêt de Fontainebleau. Oui. J'ai 17 ans, je suis très sérieux. Je suis parti de Viry-Châtillon en vélo à 7h le soir, de sorte que je sois obligé de dormir à la Baie d'Étoile. Je ne dors pas une seconde dans mon sac de couchage. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit dans une forêt? Un gland qui tombe sur un autre, moi, c'est comme un bombardement.
Un souvenir?
Oui,
souvenir un peu triste, en forme d'épilogue.
Non, c'est pas possible, ça. Alors.
Non, 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 mais bon, mais un peu tendre aussi, enfin... Ah, je dormais bien, naguère, dans mon petit couffin en mousse, bordé de coussins en soie, avec Crunch, mon gros ours brun en pluche, mes trois doudous et mon foum que je tortillonnais dans ma bouche. Pourquoi donc, depuis la fin de la guerre de Corée, je n'arrive donc plus à trouver le sommeil sans un octran, deux stilnox, quatre mépronisimes et 12 gouttes de Rivotril.
Lucas Fournier.
Moi, j'ai passé toute une nuit inopinée de janvier, dans ma voiture, immobile sur l'autoroute. Cet hiver-là, faute de sel sur la chaussée, quelques milliers d'automobilistes se sont trouvés piégés, comme l'on dit, naufragés de la route, dans une toundra neigeuse à 1000 milles de toute terre habitée, à 35 km de Paris. Vous allez me dire, mais vous avez eu des gymnases mis à disposition par les mairies, des couvertures, des boissons chaudes, comme on voit dans les reportages? Non. Non, il n'y avait rien, rien que des centaines de voitures arrêtées dans la froidure pour un encombrement géant sur cette autoroute. Il ne fallait pas s'endormir et dans ce silence glacé de l'autoroute où l'on ne capte même pas France Culture, je n'ai eu pour cette nuit de jeûne qu'une compagnie, la voix de Autoroute FM, qui m'expliqua à 1h du matin, alors que peut-être on allait nous annoncer un plan hors sec, un itinéraire bis, un espoir. Non, cette voix m'expliquait toutes les heures, à chaque flash, la recette de l'endive. Et depuis cette nuit, je fais des cauchemars d'endive.
Et depuis, vous avez toujours une couverture de survie dans la voiture, c'est ça?
Oui, et quelques endives avec une vinaigrette.
Autoroute FM, 107.7.
Patrice Delbourg.
Ah, mais plus long, mais plus douloureux l'imbago. Toutes ces nuits napoléoniennes. Par exemple, une nuit dans un refuge, dans la vallée des merveilles, au Mercantour, la tête sur une peau de marmotte. On était 80 dans le dortoir. Une autre fois dans un ryokan, dans un futon, à Tokyo, sur un parquet de sisale, les lombaires en marmelade. Et le lendemain, pas possible de mettre un pied l'un devant l'autre, le shopping à Ginza, dans une chaise à porteurs. Et une autre fois encore, tiens, je m'en souviens, à Clermont-Ferrand. J'étais en auto, j'étais tout seul, il n'y avait pas de place dans les hôtels. Il y a le limonadier qui me dit « Tiens, vous coucherez bien sur le billard !» Le billard. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus inconfortable, de plus dur au lombaire que la plaque d'ardoise, fût-elle chauffante, qui se trouve sous le tapis couleur émeraude. Après une nuit en chien de fusil, dans un coin du châssis, on m'extirpa avec un treuil et j'en fus quitte pour 25 séances chez l'ostéopathe.
Lucas.
J'ai dormi enfant dans de vieilles maisons. Les meubles grincent, le vent fait battre un volet, des bêtes non identifiées crient dans la nuit, le drap est glacé d'humidité malgré la brique chaude qu'on y a glissée, une cavalcade de rats au grenier fait craindre un envahissement, un robinet goutte, une souris ronge le bas de la porte. Et le matin, un sourire vous accueille. Oh, toi tu as bien dormi, hein ? On dort bien à la campagne, c'est calme ici.
Regardais, je me détournais, il me souriait, je m'en empêchais, et il m'a dit en se penchant: la fumée, s'il vous plaît, est-ce que ça vous déplaît? Vous fumez, permettez, alors c'est parfait. Voulez-vous mes journaux, car le temps est long, pour le tuer, parlons donc, wagon long de lit. On s'est connus dans le wagon de lit de long, le wagon long, le wagon long de nuit. Du Paris-Lyon, Marseille-Menton qui file de nuit et nous emporte vers l'Italie. On s'est souri dans les sanglots de lit de long, les sanglots longs du wagon long de nuit. Et il m'a dit au creux de l'oreille: dites-moi tu, dis-moi toi, je vous dirai pareil. À quoi bon nos prénoms, appelez-moi chérie. Appelle-moi mon amour, on se connaît à peine. Qu'on se dise vous, qu'on se dise tu, qu'importe pour une nuit. Dans le wagon de lit de long, passé minuit, on s'est aimé, aimé à la folie. Le Paris-Lyon, Marseille-Menton, toute la nuit nous emportait vers l'Italie. On s'est aimé dans les sanglots de lit de long, les sanglots longs des wagons longs de nuit. Et je lui dis au creux de l'oreille: être à tu, être à toi, être vous et moi. Quand on ne se connaît pas, à tu et à toi. Savez-vous, sais-tu bien que je suis follement émue d'être à vous, d'être à tu, d'être dans vos bras. Le lendemain, il m'a souri, adieu chéri, je descends ici, je te quitte à Vintimille. Le Paris, Lyon, Marseille, Menton, de long, Denis m'a emporté, nous séparant vers le soleil à tout jamais. Bien loin, vers l'Italie.
Jeanne Moreau, Resvani, les wagons longs de lit.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
Eh oui, Ricardo, les papous, c'est dans la tête, sur France Culture. Et les bibliothèques, elles regorgent de livres de correspondance entre gens célèbres qui avaient des choses à se dire sur la vie, la société, la politique, que sais-je, la littérature. Des livres révélateurs de l'atmosphère de leur époque. Au Papou, nous sommes plutôt en quête de lettres, toujours entre personnalités marquantes, mais dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient avoir envie d'échanger des idées. À défaut de les trouver, ces lettres inattendues, eh bien nous les fabriquons par jeu. Toutes fraîchement écrites par Patrice Delbourg. La missive suivante, qui êtes-vous, Patrice ?
Je suis Michel Jazzy. Michel Jazzy, qui de 64 à 68 a eu tous les records du monde, du mile, du 1000, du 1500, du 5000, qui a battu Ron Clark, Peter Snell, et qui était un magnifique alezan sur la cendrée de Saint-Maur. Je l'ai vu courir, c'était une merveille. Et il écrit un poète, Saint-Jean-Perse.
Mais il écrit à l'époque
oui, oui, à l'époque.
D'accord.
Alors, la lettre a été retrouvée dans une malle d'osier à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique. Et la lettre date du 13 juillet 1965. Donc Saint-Jean-Perse est au fait de sa gloire. Il a eu le prix Nobel il y a 5 ans.
Oui.
Et Jazzy pète le feu également. Il a 5 records du monde sous ses pointes.
Et donc il écrit à Saint-Jean-Perse.
Oui.
Ouais.
Cher monsieur, cher poète, cher ambassadeur, l'autre jour, un de vos recueils, @, ou plutôt Anabase, traînait dans les vestiaires du stade de Pershing pour caler l'armoire aux pointes et aux crampons. Je m'en suis emparé. Ça fait si longtemps que je n'avais lu de poésie. Un peu crampon aussi, entre nous, je veux dire, vos écritures. Elles ne m'ont pas fait le meilleur effet. Certes, je ne suis pas un spécialiste en muse du Parnasse, j'en suis resté à l'aimable Ronsard et au fluide Verlaine, qui est beaucoup plus abordable, dilué que vous, entre parenthèses. Vous devez souffrir de polyarthrose articulaire pour écrire de manière aussi guindée. On dit que votre vrai nom, c'est Alexis Léger-Léger.
Oui.
Pourtant, votre poésie est bien loin de Pégase. Plutôt proche du Baudet du Poitou. Quel manque de souplesse dans l'enjambement, d'agilité dans les appuis de course. Vous courez avec 2 enclumes à chaque cheville, mon ami. Vous vous déplacez comme une bûche de Noël sur le papier. Venez, venez sur la cendrée de Saint-Maur. Je vous apprendrai à lever les genoux. Est-ce votre Nobel qui vous est monté à la tête ? Laissez aller le cabochon, camarade. Ne soyez pas hydrocéphale de l'intellect. Pensez à la gestion de votre carcasse. Je vous dégourdirai dans votre souffle. Je vous concocterai des entraînements fractionnés pour retrouver votre vrai coffre. Pas un coffre fort, mais une cage thoracique. Chaque écrivain, vous savez, a son style. Derrière chaque poète se cache un athlète, me disait mon entraîneur à Oigny, là-bas, dans le Pas-de-Calais. Un type qui avait fait ses humanités, lui. Nurmi, par exemple, c'est Proust. Zatopek, c'est Céline. Notre cher Jules Ladoumeg est à rapprocher de Marcel Aimé. Vous ? Vous, je ne sais pas. Ça ressemble à une charge de facochère. On dit que vous êtes un as pour anticiper la critique, neutraliser d'avance vos détracteurs. Il paraît que dans votre volume de la Pléiade, vous vous êtes arrangé comme dans votre lit, vous donnant le beau rôle en toutes circonstances. Venez vous entraîner avec moi le soir sous les projecteurs de Charletti. Nous trottinerons de concert contre la lisse. Je vous dégoterai un survêtement léger, léger. Il faut que le corps exulte, comme dit le chanteur. Je vous enseignerai l'humilité. Je vous montrerai la respiration abdominale pour éviter la syncope à la rime. Je vous expliquerai comment relâcher le diaphragme avant l'emballage final, histoire de muscler votre jeu de yambes. La tête et les yambes, c'est important, hein, comme disait Pierre Belmar. Non, il ne s'agit pas que vous vous esquintiez les ménisques ou que vous vous bousilliez les croisés. Shake it, baby, shake it! Pour ma part, je suis dans ma meilleure forme de champion. Je détiens actuellement tous les records du monde du mile aux 10 000. Je viens de battre Ron Clark et Peter Snell. Avec moi, vous ne craindrez pas l'enflure, juste l'entorse. On me dit que vous n'aimez pas De Gaulle. Lui, pourtant, a de l'abattage dans la jactance. Mon copain, Alain Mimoun, l'aime beaucoup, De Gaulle. Seriez-vous jaloux? Peu importe. Moi, je cours et j'évite de réfléchir. Je souris au gradin. Je reçois des bouquets de fleurs. Quelques juniors sont en train d'éclore dans ma foulée. Il se dit alentour que 5 jeunes percent. Non? Ça ne vous fait pas rire? Bon. Indécrottable à ce que je vois. Bien à vous, son excellence. C'est ce qu'on dit, je crois, au fond des chancelleries.
Bon, c'est pas une lettre gentille. Ça ressemble pas à Michel Jazy, quand même.
Ah, et c'était teigneux,
si, Jazy. Un peu mordant.
Ah oui,
ah, ouais.
Mordant.
Oui, peu donneur de leçons.
Ah, oui.
Il les a gardés longtemps, ces records du monde.
Oui, il les a gardés 5-6 ans. Et puis après, il a été battu par les coureurs anglais.
Oui.
Ovett, Coe, Cram.
C'est mais pour ça qu'il n'aime pas Sean Pearce.
Oui, il y a un côté un peu...
English.
Oui, un peu English, un petit peu le fleck de Pearce l'agace. Il faisait pas l'unanimité, c'est vrai. Même chez les coureurs à pied, vous voyez.
Non, mais je sais que vous le détestez, Saint John Pearce. Entre autres, hein, pas que lui. Est-ce qu'il y aurait en vous, Jacques Jouet, quelques gouttes de Saint John Pearce qui sommeillent?
Le sang de Saint John Pearce, non.
Non, pas du tout. Mais vous voulez bien endosser le rôle et répondre à Michel Jazy? Non plus. Alors, qu'est-ce que vous faites ici avec nous, exactement? Dites-moi.
Eh bien, ce n'est pas Saint John Pearce qui répond.
Ah non?
C'est un certain André Malraux.
Oh, mais ce n'est pas mal non plus, dites donc.
Eh oui, c'est que Saint John Pearce n'a pas daigné répondre à Michel Jazy.
Mépris.
Et il a envoyé cette lettre à André Malraux, ministre des Affaires culturelles, pour lui demander de répondre à sa place, quand même. Oui. Donc c'est cette lettre que j'ai retrouvée.
Ah oui?
D'André Malraux à Michel Jazy. Monsieur et cher champion, entre ici, Michel, de ta foulée légère pour entendre la plainte du poète outragé dont l'épaule a été griffée par tes sarcasmes comme par un roc de la montagne pelée qui se mire dans l'eau du Gange et attend d'être taillé par le statuaire de Ninive. Oui, Michel, le médaillé perce se plaint de toi, à moi. Et même si je ne l'apprécie que peu, je ne peux faire moins que marquer le coup et te taper un peu sur les doigts de pied. Pour ton entreprise de division de nos meilleurs champions de France. Le général lui-même, qui déteste Léger plus encore que Saint John, ne voit pas d'un bon œil que tu te mêles de critiques esthétiques. Qu'il ne pète pas plus haut que ses crampons et tout ira bien, a dit le général, d'un ton courroucé. Mais entre nous, on a bien ri à lire ta lettre que le diplomate qui a avalé son parapluie nous a montré pour s'en plaindre. Donc je te m'origène officiellement, voilà, c'est fait. Mais j'ai du travail pour toi, Michel. Tu as prouvé tout ce que tu pouvais sur la cendrée d'Olympie, à deux pas des cariatides de l'Érechtheion dont le déhanché est pareil à l'ange de Reims en sa cathédrale, si semblable lui-même au Bouddha souriant de Chandigarh. Mais à l'ORTF, Michel, j'ai parlé à Dumayet, j'ai parlé à Desgroupes. Entre ici, à lecture pour tous, Michel. Dumayet est d'accord, Desgroupes est enthousiaste. Tu vas nous faire la critique de poésie, Michel. Parle-nous de Prévert, parle-nous d'Aragon, parle-nous de Michaud, parle-nous de Queneau, parle-nous de Louise de Villemorin. Entre ici, tu es protégé. Et n'oublie jamais qu'il y a un autre poète que De Gaulle n'aime pas beaucoup. C'est un poète anglais. Et son vers le plus célèbre, « No sport ». Bonne chance, Michel. Ton André Malraux.
On reconnaît bien son style, hein, toujours un petit peu, bon,
grandiloquent. Grandiloquent, un peu comme Saint-Jean. C'est un ronflant encore. Il faut tous qu'ils aillent sur la Cendrée, les Saint-Jean-Perse, les Malraux, les... même De Gaulle. Bon, il faut vraiment que je les détende, Yves. Enfin, ceci dit, une petite chronique de poésie chez Dumayet des Groupes, je ne dis pas non.
On se laisserait tenter.
Ah ouais,
hein.
l'athlète et les jambes, oui, si, je prends.
Afro Belle, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Emile Zola, Henry James, Howells, Thomas Hardy, Joseph Conrad, Catherine Mansfield, Edith Wharton, D.H. Lawrence, E.M. Forster. Happy the man and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead.
Et voilà, faites votre choix parmi tous ces grands auteurs. Book Lovers par Divine Comedy. Les classes de rhétorique pour maîtriser la prise de parole en public avec assurance. Il faut apprendre à respirer, poser sa voix, vaincre le trac et surtout s'entraîner sur tous les sujets possibles, aussi improbables soient-ils. C'est un jeu pratiqué aujourd'hui au Papou dans la tête par Odile Conseil et Patrice Caumont qui lui répondra. À Odile d'imaginer le point de départ, le sujet, les circonstances. Et d'abord, quel rôle endossez-vous pour votre discours, Odile ?
Eh bien, je suis la présidente d'une maison d'accueil pour mots abandonnés. Et nous inaugurons aujourd'hui cette maison d'accueil. J'ai donc fait un discours.
Et nous, nous sommes les mots ?
Non, pas du tout. Vous êtes tous ceux qui ont permis que cette maison voie le jour. Tous les amis, tous les financeurs, tous les mécènes. Vous êtes des gens épatants.
Oh, chic.
Mes amis. Ce jour est un grand jour qui nous voit ici rassemblés devant ce bâtiment flambant neuf, dont la forme de livre grand ouvert parle d'elle-même bien mieux qu'un long discours. C'est pourquoi mon propos sera bref, ou à peu près. Point ici de billevesées, de jactances, de lantiponnage, de bavardises ou de hâbleries, mais un peu de grand dissonance quand même pour vous dire, mesdames et messieurs, bienvenue dans la Mamo Mama, la maison d'accueil des mots oubliés, des mots abandonnés, des mots d'ailleurs. Ici, grâce à vous tous qui avez contribué à la naissance de cet endroit, on pourra recueillir et soigner les mots tombés du dictionnaire, les mots biffés, exclus par une bande d'académistes qui peuvent mettre le tampon désuet sur un terme qu'ils estiment usé, mais qui est usé ? Qu'ils estiment hors d'usage, mais qui est inutile ? Oubliant eux-mêmes que l'immortalité dont ils se réclament est celle, et seulement celle, de la langue. Ici, tabarnak, on accueillera sans mépris pour leur origine les mots cousins venus du Québec, d'Afrique, de Belgique ou bien de Suisse pour les introduire dans nos conversations. Le mot d'ordre n'est plus « enrichissez-vous » réservé à quelques plutocrates, mais « enrichissez votre vocabulaire ». Et ne me dites pas que c'est caillou ou je pourrais bien faire palabre, parce que quand on veut, on peut, nom de dzou. Ici, on rapicolera dans la cellule de réanimation spécialement prévue à cet effet les termes en voie de disparition, les expressions égrottantes, trop faibles pour survivre seules. Nous y accueillons présentement baliverniers, dont on pourra faire un abondant usage dès qu'il sera requinqué, tant les baliverniers se font largement entendre. Je ne parle pas de cette assemblée, bien sûr. Dans quelques jours, cacographe sera également remis sur pied. Qu'on m'explique pourquoi on a abandonné au bord d'un chemin ce mot qui désigne ceux qui font de nombreuses fautes d'orthographe alors qu'ils sont aujourd'hui légion. Pensez, Pensez à tous ces termes qui ne demandent qu'à servir, qui ne demandent qu'à être adoptés. Vous tous, mes amis, qui cherchez parfois vos mots, ne cherchez plus. Ils sont ici, ils vous attendent. Ils prennent des forces et revivent dans ces bâtiments et ces jardins, au milieu du zinzolin des dahlias, du nacara des pivoines et des bosquets céladons, en attendant de se glisser sur une langue, la vôtre peut-être, ou de s'allonger voluptueusement dans un texte. À la consigne, vous trouverez également des mots valises. Ridicoculisé, abandonné par Edmond Rostand, fera sans doute le bonheur de l'un ou de l'autre. Mosneratique, gibet pouille fumé, comon basillac, ou comon traché, je ne sais plus, mordiamètre, y attendent aussi leurs propriétaires. Mais assez de bavarderie. Il est temps à présent de faire gogaille et de sortir nos iboulateurs pour déboucher quelques bonnes bouteilles qui nous délieront la langue. Allons ensemble étouffer un enfant de cœur ou deux, je veux dire licher quelques drinks, ça va ambiancer, ce sera sans sas, carrément batte, totalement palace, parole de baboleuse.
Bien compris.
Attendez, on va pas tout de suite boire parce qu'il y a un monsieur qui veut prendre la parole. Vous êtes qui ?
Eh bien, je représente un groupe qui a pris largement sa part dans cette opération de bienfaisance. Et nous sommes donc contents d'avoir supporté et de supporter encore à l'avenir les mots.
Ah, très bien. Donc, vous allez dans le sens de Dil Conseil.
Non seulement on va dans le sens, mais notre argent est allé dans sa poche.
Je confirme.
Chers amis, sans l'aide des fonds privés, les mots perdus ou condamnés ne sauraient être soignés dans le public. Les dicos sont pleins et les urgences dépassées. Le docteur Alain Rey de la clinique Robert rue Littré nous a confié que chaque fois que le diagnostic classe un mot malade dans la catégorie « ancien » ou « désuet », il a peur pour les jours de ce mot, plus ou moins atteint et laissé sans soin. Le pire, ce sont les archaïsants, qui sont comme des agonisants. Comme dirait le professeur Gaffio d'Unton, un mot en phase terminale ne s'apprend plus, même en terminale. Car les mots se cachent pour mourir, et pas tous au Pérou. Ils s'enferment chez eux. Parfois un chartiste ou un poète leur procure des soins à domicile. Il était temps de passer de l'assistance au traitement et d'essayer, pour l'avenir, la prévention. Un mot doit marcher, faire de l'exercice. Rien n'est pire pour un mot retraité que le sentiment d'être inutile, de ne plus servir à rien. Grâce à l'engagement de notre groupe, nous distribuerons ces mots dans nos Happy Meal, touchant ainsi la jeunesse. Comme dans les carambars, on trouvera un mot, sa définition et son mode d'emploi illustrés par un exemple tiré de la littérature française. Les préfixes ménopausés, les suffixes séniles, les tournures arthrosées, les signifiants souffrant d'insuffisance cardiaque seront soignés, massés, défibrillés par des emplois ou des contre-emplois, même en faux sens ou en contresens. Le pôle emploi des mots qui ont perdu leur initiale fonction réattribuera la substantifique moelle du substantif perdu. Pour soutenir notre campagne, pour le retour à une vie active des mots souffrants, nous ferons appel à des stars. Ainsi, Brigitte Bardot chantera ce jingle. Sur la page abandonnée, coruscants et dépassés, les mots s'en sont allés. Quant à ceux qui sont perdus, ceux qui nous ont quittés, il conviendra de leur trouver un lieu de sépulture décent et surtout d'entretenir leurs souvenirs. Nous proposons donc la pose de plaques commémoratives de tous ces mots connus, morts au champ d'honneur de la modernité. Ces monuments aux mots seront fleuris à chaque salon du livre, car le bouquin d'aujourd'hui ne doit son existence qu'au sacrifice de tous ces mots. Voilà, restera à tirer au sort un mot à la Borghès, le mot inconnu, le frère de tous les mots. Enfin, pour ma part, j'ai personnellement adopté deux mots, vous sûr, et un qualificatif globeux, que je sors dès que je peux en déambulateur dans des phrases médicalisées.
Bravo.
Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça me vaut rien, ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tous ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Jeanne Birkin, avec des arrangements de Jean-Claude Vanier. Pour ces petits riens, vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le DLA. Et un beau dimanche de Lautréamont. Le DLA, donc, au diagnostic littéraire à l'aveugle. Le piégeur, c'est Jérôme Clément. C'est un piégeur né, Jérôme. L'expertise sera difficile. Méfiance, prudence. Il a choisi un petit bout de littérature dans un livre de sa bibliothèque qui en contient des livres, oh là là, et dans tous les genres, c'est un homme très éclectique, Jérôme. Ce petit bout de littérature, il le propose à Dominique Muller, Patrice Delbourg, Patrick Beignet, Jacques Vallée. À eux, à vous, d'en trouver l'auteur, avec des arguments littéraires si possible. Tout commence par une lecture. Jérôme Clément.
Sans être trop curieuse, je ne serais peut-être pas fâchée de savoir pourquoi tu as fait avancer hier soir la pendule d'une demi-heure et pourquoi tu t'es en allé si précipitamment, toi qui d'ordinaire prolonges la soirée jusqu'à la dernière limite. Je soupçonne qu'il y a, dans ce changement brusque d'habitude, quelques femmes ravissantes qui t'intéressent et qui t'attendaient. Seulement, tu as tort de ne pas me le dire. En t'imposant cette petite dissimulation vis-à-vis de moi, qui ne demande dans ce cas-là qu'à déposer mon tablier et à m'enfuir dans quelque coin paisible où je puisse crever tranquillement. Tu es vraiment trop bon de te gêner pour moi qui ne t'en aurais aucune obligation. Donc, mon cher homme, ne te donne plus la peine à l'avenir d'affoler mon horloge pour t'en aller plus tôt. Prends ton temps, à ton aise, et fais-en le meilleur usage que tu pourras pour ton bonheur et ne t'occupe pas de mes dernières minutes et de l'emploi que j'en ferai. Continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix. À chacun son lot. Je n'en vis pas le tien, et je ne te demande aucune pitié pour le mien.
C'est un texte très étrange, non ? Patrice Delbourg, non ? Vous avez la bouche grande ouverte, ça veut dire « ah » ?
Non, c'est un texte très très lucide, c'est une prose éternelle, internationale. C'est l'érosion du temps, c'est le vieillissement du couple, c'est l'avachissement des muqueuses. Moi, ça me va bien, ce texte. Je le trouve crépusculaire à souhait et remarquablement troussé. Vraiment, je suis très à l'aise. C'est presque du bodygraph pour moi, ce texte. Merci, oh. Jérôme.
Dominique Muller, à l'aise aussi ?
C'est surtout le dernier paragraphe. Continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix. J'adorerais dire ça à quelqu'un. Oui. Mais ça m'a fait surtout penser à « Marie-toi, sois heureux et pense à moi souvent », qui est une phrase de Madame Récamier à Chateaubriand, je crois.
Mais non, c'est de Aragon.
À Elsa ?«
Sois heureuse et pense à moi souvent », c'est dans l'affiche rouge.
Oui, mais le mien est antérieur. Ceci.
Oui, si on peut dire. Oui,
Marie-toi,
oui.
Sois heureux et pense à moi souvent.
Oui, ce que je trouve très élégant,
c'est comme continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix. Vis ta vie, voilà.
Et alors, la clé de ce texte est dans cette phrase pour vous ?
Tout le texte veut dire ça. Ouais. Tout le texte veut dire c'est bien gentil de t'occuper de moi, mais enfin je vois clair dans ton jeu. Et évidemment, c'est fait par malice, je pense. ce côté laisse-moi crever tranquille.
Oui, il n'a surtout pas envie
qu'elle le fasse. Culpabilisation totale. Oui, oui. Oui.
Ouais. Jacques Vallée.
Moi, je vois plutôt un côté théâtral, un côté vaudeville, le type qui avance l'horloge pour se sauver plus tôt et elle qui le reprend et qui dit je puisse crever tranquillement parce qu'elle a un franc-parler, comme il y a de certains vaudevilles où ils y vont carrément. Mmh. Et là, il y a tout un esprit vaudeville partout, même dans l'expression plus la peine à l'avenir d'affoler mon horloge, c'est presque une expression. tout le monde rit quand on entend ça.
Ouais.
Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un truc clownesque.
Patrice Delbon, c'est pas cochon.
Non, non, affoler mon horloge, pas du tout, c'est le temps qui passe. Sinon, il aurait dit affoler ma tirelire. Ce qui était plus coquin, bien sûr. Ou ma salle de jeu, ou des choses comme ça.
Oui, mais il y a le côté un peu pétillant. Là,
ah oui. Ah, c'est grinçant, c'est délicieusement grinçant.
C'est très amusant. Ne t'occupe pas de mes dernières minutes. C'est
oui,
vraiment...
oui, voilà. C'est, oui. Ça, c'est théâtral.
Oui, il y a le chantage un petit peu.
Oui.
Affectif.
C'est un texte qui a l'air de faire l'unanimité pour lui, en tout cas, Patrick Beignet, vous aussi
Oui, mais je le trouve plus cinématographique que théâtral, à vrai dire.
Ouais.
On entend presque Arletty dans certaines inflexions du texte.
Oui.
Et
mais c'est peut-être quelqu'un qui a fait du théâtre et du cinéma.
Oui, exactement. Ou c'est, à la limite, on peut imaginer un scénario de film.
Oui, le chat, c'est un passage. Oui. Granier de fer.
Signoret
Gabin.
Oui, mais trop grinçant.
C'est Gabin.
C'est beaucoup
c'est
plus Gabin. Caricature et amusement.
Mais c'est quand même grinçant ici. Hein. Je ne sais pas si le vaudeville me paraît un peu exagéré, malgré le coup.
Dans les vaudevilles, il y a des fois des grincements de dents.
Dominique Müller, vous n'êtes pas d'accord?
Je verrais plutôt une pièce de Bernstein, un film de René. Je vois très bien Sabine Azéma en train de dire tout ça. Avec, par la suite, le monsieur qui va se défendre de ses mauvaises intentions, bien sûr.
Ben, c'était Mélo au cinéma,
voilà,
avec
Azémar,
Ditti et Dussolier. Oui, qui était magnifique.
Attends, ici, on a l'impression qu'il s'agit d'une lettre, ce n'est pas un texte de théâtre. Parce que la place de l'interlocuteur est vide. C'est pour ça que ça fonctionne, d'ailleurs.
Oui, mais parce qu'il se tait d'une façon piteuse. Parce que c'est peut-être dessinant.
Il se tait longtemps, vraiment, oui. Enfin, moi, j'imagine plutôt une lettre, un texte écrit, quoi. Malgré l'oralité évidente du passage.
Dominique,
la personne qui s'exprime est plutôt amusante. Sans être trop curieuse, je ne serais peut-être pas fâchée de savoir.
C'est très amusant. C'est malicieux.
Elle se fiche de lui, en quelque sorte.
Voilà.
En tout cas, c'est un texte qui donnerait envie de lire la suite et ce qui précède. Alors, je ne sais pas, ça se trouve dans quoi, Patrice Delbourg?
Ça peut se trouver dans une petite nouvelle. British, il y a une acrimonie quand même un petit peu anglaise, je trouve, un peu pincée, mais quand même assez vitriolée. Moi, je trouve quand même que c'est plus proche du mélodrame que de la comédie de mœurs.
Il
me semble.
Sûrement. Donc, non, mais Jacques Vallée, il est prime sautier, donc il voit tout à l'aune de sa grande joie intérieure.
Oui, je trouve ça très léger, moi. Et surtout la façon dont elle dit « je puisse crever tranquillement », c'est léger. C'est vraiment forcer le trait.
Elle s'amuse, quoi.
Oui, elle s'amuse.
Sûr. Quelqu'un qui vous dit « continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix » entre les dents et en serrant les poings, moi, je ne trouve pas que ça...
Alors, tout dépend du ton employé pour dire tout ça. Jérôme a choisi un ton volontairement, ou peut-être c'est son ton grave. Maintenant, peut-être que lu à la Lucas Fournier, par exemple, Jacques Vallée, ça deviendrait du vaudeville, je ne sais pas. Dominique Müller.
Il est possible aussi que cette femme qui parle à cet homme ne soit pas une maîtresse, mais soit sa mère. C'est-à-dire une terriblement vieille emmerdeuse dont il s'occuperait. Parce qu'elle dit « je ne demande qu'à déposer mon tablier ». Alors, il y a un côté « moi qui me suis toujours occupée de toi toute ta vie, qui me suis saignée par tes... »
Yiddish mama.
C'est peut-être la nounou.
La nounou n'oserait pas lui parler comme ça.
La dame qui l'a élevée, tout se permet.
Je te mettrai ça dehors.
mais là, on est dans le drame rustique. Hein. La vieille gouvernante qui est au bord du tombeau, comme ça, et qui l'abandonne à ses rhumatismes pour aller danser avec des gigolettes.
Voilà, et la mère aussi. Le pauvre, il n'arrive pas à sortir de chez lui à chaque fois là.
On progresse,
elle l'empêche d'être amoureux, elle l'empêche de partir.
De vivre,
voilà.
Moi, je crois que c'est plutôt sa compagne.
Moi, je suis pour la maman. C'est ce que je fais avec mon fils, moi, tout le temps. C'est comme ça.
Pour vous, c'est la maman, c'est la compagne.
Tu t'es tellement identifié à cette réflexion.
C'est pour ça.
Je pourrais dire ça exactement, Patrick Bénier.
Le début du deuxième paragraphe, je soupçonne qu'il y a dans ce changement brusque d'habitude quelques femmes ravissantes qui t'intéressent et qui t'attendaient. Ça irait dans le sens de la mère, effectivement.
Ah oui. Oh, de la maîtresse aussi, ça.
Oh, c'est un peu pareil. J'essaie la mère, la gouvernante, la vieille maîtresse. Ça,
ah bon, ouais. Tout ça, c'est des moments, quoi.
Oh, tout ça, c'est des formes de maman, c'est des ersatz de maman.
Oh, oui. Oui, oui, bah oui, bah oui. Il est tellement pessimiste, Patrice Delmour. Vous pourriez nous redonner une lecture avec un sourire dans la voix pour qu'on voit.
Oui, je vais essayer de changer le.
Oui, changer le ton changer pour le qu'on ait.
Si j'y parle. Ouais. Sans être trop curieuse, je ne serais peut-être pas fâchée de savoir pourquoi tu as fait avancer hier soir la pendule d'une demi-heure et pourquoi tu t'es en allée si précipitamment, toi qui d'ordinaire prolonges la soirée jusqu'à la dernière limite. Je soupçonne qu'il y a dans ce changement brusque d'habitude quelques femmes ravissantes qui t'intéressent et qui t'attendaient. Seulement, tu as tort de ne pas me le dire en t'imposant cette petite dissimulation vis-à-vis de moi, qui ne demande dans ce cas-là qu'à déposer mon tablier et m'enfuir dans quelque coin paisible où je puisse crever tranquillement. Tu es vraiment trop bon de te gêner pour moi qui ne t'en aurais aucune obligation. Donc, mon cher homme, ne te donne plus la peine à l'avenir d'affoler mon horloge pour t'en aller plus tôt. Prends ton temps à ton aise et fais-en le meilleur usage que tu pourras pour ton bonheur et ne t'occupe pas de mes dernières minutes et de l'emploi que j'en ferai. Continue d'être jeune, mais laisse-moi vieillir en paix. À chacun son lot. Je n'en vis pas le tien et je ne te demande aucune pitié pour le mien.
Ah là, alors, avec ce ton ironique, le texte est terriblement méchant et ça change complètement.
Oui, puis il a le côté maman et
disparaît.
Oui, mon cher homme.
Oui. Oui. Oui, mais peut-être moi...
C'est l'épouse des Cathy, c'est pas la maman sur le déclin.
Ça peut être la maman qui dit maintenant, tu n'es plus mon petit garçon, maintenant que tu es un homme, mon cher homme. Vas-y, vite.
Maman dit pas mon cher homme.
Ça dépend de l'époque.
Même chez Albert Cohen.
Ah bon ? Dites-moi, Patrick Bénier, est-ce qu'on a des éléments pour dater ce texte ?
On n'en a pas beaucoup. Hein. Non. Le style est absolument impersonnel.
Peut-être
il est dans le mouvement, dans la récrimination, mais...
Tu t'es en allé ? Non, ça dit rien.
Non, pourquoi ?
Je sais pas.
Tu t'en allas, vous direz
Tu t'es en allé.
Oui, c'est un peu paysan, tu t'es en allé.
Oui, c'est un peu
ah bon.
Décalé. Non,
oui, mais on dirait paysan, ça n'est pas chronologiquement une
non,
facilité.
Non, c'est paysan de quelle époque voilà, c'est ça,
oui. Donc,
la pendule.
Qui dit oui, qui dit non.
Plutôt la...
Parce que c'est une pendule de cheminée, manifestement, où on peut tourner les choses à la main. Et ça, c'est un peu daté. Enfin, nous n'avons plus ça chez nous, quand même.
Il y a eu quand même des pendules, même après-guerre.
Oh bah. Oui, mais c'est pas aujourd'hui.
Moi, j'ai une comptoise chez moi.
Tu as une grande comptoise.
Ah oui, j'ai une comptoise.
Enfin, dans la chanson de Nougaro, dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule.
Oui.
On est dans le contemporain avec la pendule aussi. Enfin, je veux dire, il y a des,
sûr,
y a des vieilles pendules
vieux.
Dans des intérieurs très récents. Hein, il suffit
donc,
d'aller au puce, quoi.
Je ne vois pas, à part des critères psychologiques qui me dépassent, je ne vois pas ce qui pourrait permettre...
De... Ça va être difficile de trouver un nom d'auteur. Hein,
moi, je trouve que c'est un monsieur quand même très prévenant pour sa dame, puisqu'il prend le soin d'avancer la pendule, il pourrait se casser carrément une demi-heure avant.
Oui, bien sûr.
Alors, il est tout à fait précautionneux avec cette dame.
En plus, elle dit, la pendule est avancée d'une demi-heure. Et elle dit, toi qui d'habitude prolonges la soirée jusqu'à la dernière limite, comme si une demi-heure changeait
grand-chose. Donc on ne progresse pas sur l'époque, hein, Patrice Delmour.
Ah oui, moi je trouve ça d'une méchanceté inouïe.
Ouais.
Il y a la récrimination, le ressentiment, le chantage affectif, le levier d'un être sur un autre.
Ça ne j'indique pas la date, tout ça.
Mais non, je vous l'ai dit d'entrée, c'est un texte éternel, international. Je pense qu'il aurait pu être écrit à l'époque d'Abélard comme à celui de Modiano.
Non, il a été écrit... au XXe siècle, juste avant-guerre, peut-être.
Pourquoi ?
Juste après.
Ben justement, la pendule, qui était encore beaucoup présente à cette époque.
Et
parce
pour
que à cause de la liberté de ton, je puisse crever tranquillement, peut-être qu'avant, on aurait pris peut-être plus de... Plus
de délicatesse pour le dire.
Oui,
je puisse mourir.
Peut-être.
Oui, puis crever tranquillement, c'est assez récent comme expression.
Oui, c'est ça qui le ramène un peu plus près de nous.
Ça pourrait être une traduction, Patrick Bénier ? C'est écrit en français ? Qu'est-ce qu'il nous dit ?
Ça coule bien.
Oui.
Rien ne fait obstacle au flux de la langue. Donc oui, ça doit être du français dans le texte.
Dans le texte, pur jus.
Parce que c'est très parlé, enfin, ça sonne juste.
Dominique Muller.
Peut-être de l'italien. Je dis de l'italien parce que je vois pas mal d'auteurs italiens très michons qui pourraient raconter ce genre de choses.
Ouais.
J'en ai en tête comme ça.
Ah ben bah voilà, donc vous avez le nom, donc il faut avec, faire rentrer
non,
les arguments.
Non, j'ai plusieurs noms surtout, mais c'est parce que cette idée de la femme qui est une emmerdeuse, quoi, mais dont on se débarrasse pas si facilement que ça, en Italie ouais. encore moins qu'ailleurs.
Ouais. C'est un gros bouquin, Patrice Delbourg.
Moi, ça peut être des chroniques sur quelques années, comme ça. Peut-être un journal de bord de la fin d'un couple. Je pensais au début du... Enfin, oui, de la fin d'un couple. Enfin, disons d'un couple dans ses derniers soubresauts.
Mais ils se séparent ou l'un des deux va tuer l'autre parce qu'il n'en peut plus.
La vieille va clamser.
Ah, elle va mourir toute seule.
Ah bah oui, la vieille est plus âgée. Donc déjà, il faut trouver un roman avec une femme plus âgée que Il y en a un, comme ça, dans le centre de la France, qui est pas mal.
Oui.
Mais je pensais à une traduction anglaise tout au départ, mais finalement, je crois que c'est traduit du français, et même d'un bon styliste.
Ah, donc, pur français.
Pur français du centre.
Oui, Jacques Vallée.
Moi, j'en reviens un peu à mon idée de théâtre, idée initiale. Je pense que ça peut être un monologue. Ça peut être un monologue d'une dame qui raconte un peu la fin de son mari ou comment elle a mis fin à une situation qui était très désagréable. Peut-être une empoisonneuse, on ne sait pas.
C'est pas joyeux.
Ah, oui. Ah,
moi, je voyais plutôt un empoisonneur ensuite. Enfin,
oui, parce que vous pensez que il va la tuer. Oui, c'est ça.
Un moment de...
Ah, c'est très difficile. Hein. C'est toujours piégeux avec Jérôme Clément. Il nous regarde d'un petit air narquois. Il est très content.
Amusé, surtout.
Et il y a des choses à dire encore avant de... Balancer des noms, allons-y, Patrick Beignet.
Moi, je suis prêt à balancer un nom.
Ah ben, alors, balancer.
Eh bien, c'est plus à une œuvre qu'à un nom que je pense, mais dire le nom de l'auteur, c'est Cocteau.
J'y ai pensé, figurez-vous. Oh, c'est drôle quand il a parlé d'un monologue, Jacques Vallée,
évidemment. Il nous a un peu mis sur la route,
oui. Cocteau, bah oui. Pourquoi pas.
Mais les scènes conjugales chez Cocteau, c'est pas le centre de son œuvre romanesque.
Non.
Il s'agit de théâtre.
Mais une pièce de théâtre. Ouais.
Même dans son théâtre.
Patrice Delbourg, cet auteur du centre.
Alors,
cet
auteur du centre de la Creuse, avec la haine conjugale au centre de son œuvre, c'est Marcel Jouandeau.
Ah bon ? Ah oui.
Avec Élise, donc il détestait. Oui. Donc il y a des scènes comme ça au vitriol avec des dialogues. Comme ça, mais éternel, avec un côté moraliste au jus de citron, ça pourrait très bien être Jouandeau. Avec le tablier aussi, des petites choses comme ça.
C'est intéressant en tout cas. Jacques Vallée, alors, ce vaudeville...
Ben, j'ai pensé un peu à Cocteau, mais je prendrais Sacha Guitry.
Qui peut être méchant aussi.
Oui, qui peut
méchant
être très
drôle
méchant.
À la fois.
Et avec une femme dans le rôle.
Oui, ben oui, justement, il peut inverser le...
C'est souvent les hommes qui ont les rôles brillants.
Oui, mais il a eu des femmes aussi qui étaient des femmes fortes. Et qui,
dans sa vie personnelle.
Dans sa vie personnelle, et il a des images de femmes qui peuvent le raconter ça.
Tu es très variée, hein, et avec vous, Dominique, alors
J'ai l'impression, avec Jérôme, qu'on peut dire n'importe quoi. Parce qu'ensuite, il va finir par... Mais c'est la guerre du Péloponnèse.
Oui.
Une chose, suite la vie des hommes, je suétonne. Enfin bon. Donc, j'ai pensé donc à Bernstein, comme je vous l'ai dit tout de suite, puis à Moravia, puis à Colette, mais j'en reviens à Moravia.
Ouais. Avec un petit argument alors ?
Parce qu'il a pas mal de textes extrêmement méchants aussi.
Oui. Et puis il va nous sortir Cohen.
Non, et c'est là où il va, je vous dis...
Non, il va nous sortir des choses... Alors, très étonnante. En tout cas, les choix de vos camarades sont étonnants aussi. Donc, Patrick Beignet opte pour Jean Cocteau, Patrice Delbourg pour Marcel Jouandeau, Jacques Vallée pour Sacha Guitry et Dominique Muller pour Alberto Moravia. Y a-t-il un gagnant par chance extrême ?
Non, il n'y a pas de gagnant.
Ah.
Il n'y a pas de gagnant, bien qu'un nom qui figure dans ma liste ait été prononcé par l'une d'entre vous. Il s'agit de Colette, qui a été prononcée.
C'est pas le vrai nom.
Par Dominique Muller.
Je vais vous en donner trois, mais après, ça sera à vous de vous déterminer. C'est simplement le seul nom qui a été prononcé.
Voilà,
les autres ne figurent pas dans ma liste. Dans
et
ma
liste. Dominique l'a évoqué en disant qu'elle est renoncée.
En disant qu'elle est renoncée pour revenir vers Moravia.
Voilà.
Ce qui
alors.
Est d'ailleurs tout à fait intéressant. Alors, dans ma liste, figure Feydeau, Colette et Juliette Drouet.
Juliette Drouet
Parmi nous, hein.
Il est drôle pour une fois que je n'ai pas posé la question de l'écriture féminine. Zut alors, quand
oui.
même.
Oui.
Parce qu'il y a deux
oui.
femmes sur trois. Alors, ben, Feydeau, Colette, Juliette Drouet. Ben, alors, Feydeau,
mais je l'ai marqué.
Jacques Vallée, oui. vous l'avez marqué.
Je suis témoin que Jacques Vallée
c'est le premier mot que j'ai
marqué
quand il le lisait.
Et, mais vous avez opté
ben
pour
non,
sa
ben
jaguetterie
oui,
ensuite.
Oui, parce que je pensais avec le temps que c'était plus proche que...
Mais vous aviez cette impression
oui,
de
oui,
votre
de
vie.
Feydeau. Donc je vais choisir Feydeau.
Pour être fidèle à vous-même.
Oui, voilà, tout à fait.
Mais c'est très très brillant, Jacques Vallée. Si vous gagnez, je serai bluffée complètement.
Non.
Patrick
je
Beignet.
Je pense qu'il y a un piège.
Et bien, Feydeau, je vais choisir un nom. Le
Colette.
Nom de la liste qui est le plus proche de Feydeau, c'est...
Juliette Drouet.
Oui.
un argument pour...
Mais j'ai lu des lettres de Juliette à Victor Hugo,
oui,
et
oui.
il y a effectivement des mon cher homme et des petites scènes où il se conduit de
Plein
façon
de
absolument démentielle,
ah,
oui. et où elle est
oui, oui.
à la fois
oui, oui.
patiente et absolument
oui, oui,
outrée.
Tout, oui,
c'est vrai.
Aussi,
Dominique Ruller dit
oui,
aussi
oui.
Juliette
D'autant Drouet. Plus que cette histoire a duré pendant des siècles, si je puis dire.
Oui, effectivement. Et Patrice Delbourg,
c'est
alors ce couple qui se déchire pour
Hugo
vous.
Hugo était un pignouf, un phallocrate, et c'est Juliette Drouet, bien sûr.
Ah, vous êtes d'accord.
Bah oui.
Alors, nous avons un Feydeau pour Jacques Vallée, trois Juliette Drouet pour Patrick Beignet, Dominique Muller, Patrice Delbourg, Pat Colette. Y a-t-il
pourtant,
un
il est, le nom
des gagnants
oui, parce
oui.
Ça, oui, ça lui irait bien, en quelque sorte.
Eh bien, je vous félicite pour ce second tour, parce qu'il y a trois gagnants. C'est Juliette Drouet. Alors, c'est une lettre de Juliette Drouet, écrite en 1872. Je vous rappelle que Juliette Drouet a à ce moment-là 66 ans.
Ben oui.
Et elle est la maîtresse de Victor Hugo depuis 1833, depuis le 17 février 1833, d'ailleurs, exactement.
Donc, elle avait quel âge quand elle a commencé leur histoire d'amour.
Elle est née en 1806, donc elle avait 27 ans.
C'est déjà beaucoup.
Elle avait 27 ans et elle lui a été fidèle jusqu'à sa mort. C'est une passion absolument. Elle a écrit 21 000 lettres. Elle lui en écrivait à peu près 3 par jour.
Quand je vous le disais que c'était une
emmerdeuse. 3 par jour. Et elle est morte avant lui. Elle est morte en 1883. Victor Hugo est mort après. Donc, à l'époque où il lui fait cette scène de jalousie, dans une lettre donc, de 1872, il a 70 ans et elle 66. Et voilà, elle conserve sa verdeur. Alors, dans ses lettres absolument admirables, vivante, gaie, drôle, amoureuse au dernier degré, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et il y a notamment des petites scènes de jalousie, comme elle en fait une à ce moment-là.
Ouais.
Et donc voilà, c'est pas du tout une mère. Alors quelqu'un au début a dit, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre. Oui, effectivement, parce que Juliette Drouet a connu Victor Hugo quand elle répétait une pièce de lui.
Lucrèce Borgia.
Lucrèce Borgia, exactement. Elle était pressentie pour jouer un rôle important dans Rulas. Et puis elle ne l'a pas joué finalement. Puis ils ont eu cette histoire d'amour extraordinaire qui a tout de suite illuminé sa vie à elle et à lui d'ailleurs. Et alors avant d'être avec Victor Hugo, elle était avec un sculpteur qui l'a pris pour modèle pour la statue de Strasbourg sur la place de la Concorde. Donc si vous voulez voir le portrait de Juliette Drouet, vous allez voir sur la place de la Concorde, Strasbourg, et vous aurez le visage de Juliette Drouet. Voilà cette histoire extraordinaire qui a duré plus de 50 ans.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule de l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou.
Claude Nougaro, le coq et la pendule, dernier moment de ce numéro des Papous, un joli dimanche et même pour Jacques Jouet un beau dimanche en pastiche. Joli, beau, c'est pas tout à fait pareil. Le beau dimanche de Lautréamont, Jacques.
Beau dimanche. Tu auras toujours été pour moi le grand tire-bouchon de la permanence, le 4x4 impolluant de la solitude, le bas de la rue du Cotentin éternel. Je te salue, beau dimanche, beau comme une veille de lundi retardatrice. Beau dimanche, est-ce que tu peux m'entendre du haut de la grande électivité de tes esgourdes? Je t'admire, tu m'engloutis, tu me soulèves par le double pénis de ta violence intrinsèque, le phare anti-brouillard de ta scototaxie, le noir soulage de ta phototaxie positive. Je te salue, beau dimanche, beau comme une avant-veille de mardi qui ne veut pas franchir le pas. Beau dimanche, toi qui n'as pas de forme, sinon la psychomalléabilité de ta ligne d'horizon, sinon le crétinisme basalpin de tes gigots flageolets, parle-moi autrement que par les ploufissures de la répétition, de la répétition, de la répétition qui ne connaît pas la queue d'aronde de la satisfaction génitale ni a fortiori l'onagre bisannuel des mathématiques sévères. Je te salue, beau dimanche, beau comme un mercredi du temps qu'il n'y avait pas d'école. Beau dimanche, je ne vois pas comment tu aurais pu connaître le train électrique ou la poupée Barbie des commencements de tout. Tu es vieux, c'est une chose, tu es même vieille, dans ta post-position fatale du substantivisme de la moelle atteinte de l'éléphantiasis spongiforme bovin de la métaphysique, et la messe d'onze heures empoisonnante comme le bouillon en dépit de tout, en dépit de la bave batracienne, du dépit et du mufle hermaphrodite de l'oisiveté. Je te salue, beau dimanche, beau comme un cinquième jeudi. Beau dimanche, tous les droits je te les accorde. Il n'en est aucun que pourrait te daigner l'ongle rogné de l'avarice et le talitre du compost intellectuel, autrement dit, laisse de mer des méninges. Tu ne peux qu'ignorer le cheveu gras de l'arrogance et le petit pipi caché de l'abattardissement. Comme je t'envie de si bien vouloir la caresse peau de chamois de tout différent conjugal. Comme je t'envie de former chaque année sans fatigue l'armaillie de la générosité fait homme. Je te salue, beau dimanche. Beau comme l'avant, l'avant-veille de toi-même. Beau dimanche, tu auras toujours été pour moi le grand accomplissement du farniente, l'esprit de la branloire pérenne du chat de montaigne, l'exaltation du petit jaune aux ingres après le tiercé. Je te salue, beau dimanche, beau comme une veille de dimanche.
Qu'est-ce qu'on fait après, Hervé?
Ah, je ne sais pas. On prend un dictionnaire, on cherche les mots qu'on a pas compris.
On cherche tout le monde. Il était très inspiré ce jour-là, justement.
Alors, le talitre, c'est simplement la puce de mer.
Ah, bien sûr. Oui, je me dis, c'est bien. Bien sûr.
Oui, oui.
C'est dingue.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À podcaster pendant un an, à réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. On se retrouve dimanche prochain à 12h45 pour la première partie de notre émission enregistrée en public à la Maison de la Radio pour fêter les 30 ans des papous dans la tête. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie d'Antoine Perrault pour Tire ta langue. C'est dans quelques instants pour un bel après-midi sur France Culture. Au revoir.
Tiens,